Et bien sûr, c'est le journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Les patrons de la FNSEA et des jeunes agriculteurs sont reçus par Gabriel Attal à Matignon. Le mouvement se poursuit et s'étend à la région parisienne. Nous retrouverons Valentin Winato sur un point de blocage. La ministre de la Culture a-t-elle annoncé trop vite la fin du conflit social au centre Pompidou? La CGT contredit Rachida Dati, nous verrons pourquoi. Le gouvernement israélien demande la démission du dirigeant de l'UNRWA. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est dans la tourmente, mais l'arrêt de ses missions pourrait être problématique pour Israël, nous dira Thibault Lefebvre depuis Jérusalem. Enfin, la chronique Demain l'écho d'Annabelle Grelier sera consacrée à la végétalisation des bâtiments. Ils avaient annoncé un siège de Paris, toujours mobilisés pour la hausse de leurs revenus et la diminution des normes, entre autres revendications. Des agriculteurs ont organisé le blocage de différents points d'accès à la capitale, installant tracteurs et bottes de paille sur de grands axes autoroutiers sous la surveillance des forces de l'ordre. On retrouve Valentin Winato sur l'autoroute A1. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Vous vous trouvez à Chennevières-sur-Marne, dans le Val-de-Marne.
À bord d'un tracteur même, oui, celui de Guillaume. Alors nous sommes partis de Senlis dans l'Oise au début de l'après-midi. Plusieurs autres convois des Hauts-de-France nous ont rejoints par la suite dans un cortège d'environ 200 tracteurs en file indienne à 15 km/h, pas plus. Alors désormais, tout le monde est à l'arrêt juste avant l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au port du Val d'Oise et de la région Île-de-France au nord. Et les agriculteurs sont désormais à l'arrêt. Ils sortent les barnums et sont prêts à passer la nuit ici.
Et donc, quel est le programme que prévoit Guillaume? Avec qui vous vous trouvez, Valentin?
Nous avions prévenu le gouvernement vendredi dernier où nous étions déjà en place 30 km un petit peu plus haut. Les mesures annoncées par ce gouvernement représenté par Monsieur Attal ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendions. Nous lui avons dit que nous reviendrons. Nous sommes des gens de parole, nous sommes là.
Donc vous êtes là sur l'autoroute A1 pour combien de temps d'après vous? Est-ce que vous savez déjà?
Tant qu'il n'y aura pas de mesures concrètes, des vraies mesures, des choses sonnantes et trébuchantes, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit aussi de la part de la Commission européenne.
Et alors, comment sont accueillis les agriculteurs, Valentin?
Eh bien, ce matin, dans les bouchons pour venir dans l'Oise, on n'a pas senti nécessairement d'agacement de la part des automobilistes. Plus encore, sur la route, le convoi a été très bien accueilli, il faut le dire. À plusieurs endroits, ici et là, sur les ponts, dans les champs, des riverains se massaient pour les applaudir, drapeau français à la main. Encore en ce moment, sur le pont qui est au-dessus de nos têtes, des automobilistes se sont arrêtés pour applaudir et klaxonner les agriculteurs.
Valentin Winato à Chennevières avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Le marché de Rungis, protégé par des blindés de la gendarmerie, n'est pour l'instant pas bloqué. Il est visé par le syndicat Coordination Rurale. Il y a aussi des actions à Lyon avec le blocage de l'autoroute A7. Au total, selon la gendarmerie, 30 départements sont touchés et 16 autoroutes concernées. Emmanuel Macron a lui-même fait un point sur la situation agricole à l'Élysée cet après-midi en présence de plusieurs ministres. La réunion a précédé de peu le Conseil des ministres. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Conseil des ministres à l'issue duquel la porte-parole Prisca Thévenoud a confirmé qu'il y aurait de nouvelles mesures annoncées dès demain.
Oui, les premières annonces de Gabriel Attal en fin de semaine n'ont pas suffi, on l'entendait à l'instant, et c'est assez clair pour l'exécutif. Il veut ce soir montrer qu'il ne lâche rien, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenoud.
Notre action ne s'arrête pas aux annonces de vendredi dernier. Le Premier ministre rencontre ce soir les représentants agricoles. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a fait savoir que de nouvelles mesures seront prises dès demain. Le président de la République, quant à lui, abordera le sujet lors du Conseil européen qui se tiendra ce jeudi.
Le président qui s'impliquera directement donc à travers un échange avec la patronne de la Commission, Ursula von der Leyen, pour parler notamment de l'accord Mercosur, des jachères imposées aux agriculteurs ou encore de l'arrivée de produits ukrainiens dans l'Union. Et ça ne s'arrêtera pas là, promet encore la ministre Thévenoud.
La mobilisation du gouvernement aux côtés des agriculteurs s'inscrit dans la durée et nous échangeons avec leurs représentants pour répondre au mieux à leur situation. Et nous continuerons bien évidemment dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Nous sommes mobilisés depuis l'élection du président de la République à défendre l'agriculture à la française. Nous l'avons été hier, nous le sommes aujourd'hui et nous continuerons à l'être demain. nous serons résolument au rendez-vous de nos résultats.
Avec de nouvelles mesures dès demain, donc, l'exécutif vante une action dans le temps long et qui ne date pas d'hier, contrairement à certains dans l'opposition, que la porte-parole du gouvernement accuse ce soir d'opportunisme cynique.
Rosalie Lafarge, avant d'annoncer de nouvelles mesures, Gabriel Attal a convié à Matignon les patrons de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Il reçoit en ce moment même Arnaud Rousseau et Arnaud Gaillot en présence des ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique. La FNSEA, premier syndicat agricole, est l'interlocuteur incontournable. Mais dans cette crise agricole, sa légitimité à mener les négociations a plusieurs fois été remise en question. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Aurélie.
C'est le profil du président de la FNSEA qui est pointé du doigt, Jeanne.
Oui, parce que rappelons que le mouvement est parti du sud de la France, une région d'éleveurs et de viticulteurs. Des agriculteurs qui, pour certains syndicats, pourraient ne pas se sentir représentés par la FNSEA aujourd'hui et son président Aurélien Rousseau. D'abord parce que ce dernier incarne un modèle d'agriculture différent de la leur. Arnaud Rousseau est un céréalier propriétaire d'un terrain de 700 hectares. Il défend l'agro-industrie forte, compétitive, celle des grosses exploitations. Donc, Arnaud Rousseau est aussi président du groupe Avril, un conglomérat agro-industriel qui regroupe par exemple les marques d'huile Isio 4, Puget ou Le Sieur. Il appartient donc aussi aux agro-industriels, ceux-là même dont on dit dans les mobilisations d'agriculteurs qu'ils sont une des raisons de leurs difficultés aujourd'hui. Et puis Arnaud Rousseau incarne aussi d'autres fonctions, chacune rémunératrice. Il est maire d'une commune de Seine-et-Marne, propriétaire de sociétés para-agricoles. Ses revenus à la FNSEA pourraient grimper jusqu'à 13 400 euros par mois, selon une enquête de Mediapart. Ce qui peut, selon certains syndicats comme la Confédération Paysanne, donner une image du président trop éloignée de la réalité des petits exploitants. D'après une enquête de l'INSEE de 2018, 18% des foyers agricoles vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.
Jeanne Serrin, que sait-on de la France rurale? C'est la question qui sera abordée par Emmanuel Laurentin et les invités du temps du débat à 18h20. Et puis, parallèlement au mouvement des agriculteurs, des opérations escargots sont menées par des chauffeurs de taxi. Ils réclament à l'assurance maladie la renégociation des conditions de rémunération du transport des patients. Le conflit social au centre Pompidou est fini. L'annonce vient de la nouvelle ministre de la Culture dans un communiqué. Rachida Dati, qui s'apprête à présenter ses vœux au monde culturel ce soir, annonce qu'un accord a été trouvé entre le centre Pompidou et les organisations syndicales SPCPFO et CFDT Culture. Mais elle ne précise pas le contenu de ce protocole. Alors on se souvient qu'une partie du personnel s'était mise en grève mi-octobre pour obtenir des garanties d'emploi pendant la longue fermeture du centre Pompidou pour travaux de 2025 à 2030. La grève a ensuite été reconduite à plusieurs reprises. En est-on enfin sorti? Pas du tout, nous dit Vincent Crière, secrétaire général de la CGT Culture et négociateur pour les syndicats.
On est sur la difficulté qu'il y a deux organisations syndicales, à la demande de la direction, qui les a contactés dans le week-end, sans nous contacter nous d'ailleurs, pour signer un protocole qui était en cours de négociation. Alors qu'il était convenu dans la négociation qu'on se revoyait justement. C'est des méthodes de voyous. Par ailleurs, nous, on a toujours dit que comme l'Assemblée Générale nous avait donné mandat pour déposer un préavis de grève sur les 18 points revendicatifs, nous ne signerions que si, effectivement, l'Assemblée Générale, après débat, nous donnait mandat pour le signer. Et celle-ci sera convoquée pour le jeudi au centre Pompidou. Donc non, pour l'instant, non, la CGT n'est pas signataire et non, la grève n'est pas finie.
Et comment expliquez-vous la communication de la nouvelle ministre de la Culture qui annonce, elle, la fin du conflit social?
Ça c'est sa responsabilité à elle. Si elle considère que FO qui n'est pas représentatif au niveau du ministère de la Culture, sauf effectivement Pompidou, l'UNSA qui n'est même pas représentatif à elle seule, et que là-dessus il y a la CFDT, et que les autres organisations syndicales sont pas signataires, c'est ce qu'elle veut la ministre, hein. Parce que c'était ses vœux là. Donc elle a voulu absolument montrer qu'elle elle pouvait faire signer un protocole. Simplement, elle l'a fait signer à des organisations ultra-minoritaires au sein du ministère. Ça, c'est grandiose, ça, comme arrivée en tant que ministre de la Culture. On pensait qu'elle serait un peu plus fut-fut et qu'elle saurait tenir compte un peu des rapports de force au sein du ministère de la Culture. Apparemment, c'est pas le cas.
Vincent Crière de la CGT Culture répondait à Éric Chavreau. Sciences Po Paris et les campus décentralisés de l'établissement à Reims, Nancy, Poitiers et Le Havre sont bloqués par des étudiants. Ils protestent contre le retour du directeur Mathias Vichra et demandent sa démission. Mathias Vichra, entendu en décembre par la police dans une enquête pour violence conjugale, s'était mis en retrait le 11 décembre et comptait faire sa rentrée aujourd'hui à Sciences Po Paris. En vue de la campagne des européennes, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, annonce qu'il soumettra le 8 février au vote des militants une liste conduite par Raphaël Glucksmann, qui est à la tête du petit parti Place Publique. Par ailleurs, l'eurodéputé Manon Aubry a confirmé qu'elle devrait bien être la tête de liste de la France insoumise pour les élections du 9 juin, comme il y a 5 ans. Manon Aubry, qui, même si la NUPES n'existe plus, appelle au rassemblement. Écoutez-la.
Ce que je veux faire, c'est lancer un appel à tous les orphelins de la NUPES, tous ceux qui ne veulent pas du duo entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Je leur dis, venez nous aider. On a proposé tout du long, y compris à ce que nous n'ayons pas la tête de liste, mais à ce qu'on puisse se rassembler sur le programme de la NUPES. Et vous savez, en la matière, moi, je ne suis pas juste croyante, je suis une pratiquante. Donc ma main restera tendue jusqu'à la dernière minute. Je pense que c'est aux électeurs de s'en mêler et c'est à eux que je veux m'adresser aujourd'hui, à toutes celles et tous ceux qui ne se résolvent pas à avoir cette course de petits chevaux pour savoir quel petit cheval va être devant et va faire plus de 10% par rapport aux autres quand on a l'extrême droite et les macronistes qui caracolent seuls en tête. Mais il nous faut avancer. Les jeunes de la NUPES, en élaborant un programme commun, nous ont montré que c'était possible. Et je veux dire aux électeurs que quoi qu'il arrive, il y aura une liste de la NUPES. Et oui, je me battrai pour qu'elle soit la plus large possible et qu'on puisse discuter la victoire.
L'eurodéputée Manon Aubry de la France Insoumise avec Sophie Delpont. Encouragée par la loi Climat et Résilience, la végétalisation des bâtiments prend de l'ampleur en France. C'est le thème de Demain l'Écho. Tous les ans, environ 1,8 million de mètres carrés de toits sont végétalisés. La mairie de Paris, par exemple, a intégré le concept de toiture végétalisée dans son plan local d'urbanisme. À ce nom, près de Bordeaux, une entreprise a mis au point une structure innovante pour végétaliser toits et façades. Elle doit inaugurer son premier bâtiment 100% autonome dans quelques mois, Annabelle Grelier.
C'est un bâtiment expérimental, la vitrine de Végétech. Rachetée en 2017 par le groupe de Monchy, la jeune pousse qui avait éclos dans l'écosystème Darwin à Bordeaux s'est faite une place dans le secteur de la végétalisation des bâtiments. Elle a désormais trouvé une force de frappe pour se développer. Son nouveau siège se veut un concentré de toutes ces innovations. D'abord la structure. Les végétaux ne seront pas suspendus ni grimpants, mais plantés dans des jardinières géantes intégrées dans la façade, nous explique Anselme de Souza. Il est le directeur du bureau d'études.
On a mis en place ce système sur des structures porteuses poteaux-poutres. Et c'est un élément de remplissage qui se fixe avec des systèmes type Lego. On vient s'imbriquer les uns sur les autres et on bâtit toute la façade comme ça.
Une façade conçue en béton bas carbone avec tout un système d'arrosage intégré alimenté par les eaux pluviales.
Ça évite l'écoulement direct du toit vers le sol. Ça régule l'écoulement. Et ces systèmes permettent de récupérer les eaux et de s'écouler sur chaque module et de descendre au fur et à mesure jusqu'en bas et en bas, récupéré par une citerne et réinjecté sur la toiture pour faire une boucle. On est sur une économie d'eau aussi.
Pour faire face à la canicule et au manque d'eau, les eaux grises du bâtiment seront aussi réutilisées, précise Didier de Monchy, le patron du groupe.
On récupère un peu les eaux pluie, mais surtout le côté innovation, c'est qu'on récupère toutes les eaux grises, puisque l'été, le problème qui se passe, quand il fait chaud, ça peut arriver 3 mois, 4 mois, qu'il ne pleuve pas, donc tout crève. Que les eaux grises, on en a toujours. Donc on a inventé un système de filtration. Alors c'est un système un peu innovant, de filtre qu'on fabrique nous-mêmes avec des cheveux.
Pour l'électricité, là aussi, tout a été pensé pour être autonome en énergie.
Exactement. On a des panneaux solaires couplés à de la végétalisation et ces panneaux solaires vont alimenter à 100% le bâtiment. Donc on n'utilisera pas d'énergie extérieure et on le stockera en hiver sur des systèmes de batteries pour pouvoir autoconsommer.
Végétaux et panneaux solaires, toiture biosolaire, il fallait une idée pour alléger la structure. Végétech a trouvé la solution, affirme Didier de Monchy.
Et la toiture la plus légère au monde. Alors pourquoi elle est plus légère? C'est que nous, la particularité par rapport aux autres couvertures, c'est que on n'a pratiquement pas de terre. Nous, c'est un tapis de chanvre auto-irrigué et dessus, on amène sur un substrat très léger qui fait entre 3 et 4 cm. Et au fil du temps, ce substrat disparaît et la racine rentre dans le chanvre. C'est l'irrigation qui permet de nourrir la plante et qui permet qu'elle ne crève pas.
La végétalisation, reconnue pour offrir une meilleure adaptation des bâtiments au réchauffement climatique, répond aussi aux enjeux énergétiques. Catherine Stenkist, elle est la directrice de Végétech.
Les principaux gains de ces innovations, c'est qu'en apportant du végétal sur la toiture et la façade, on vient naturellement rafraîchir le bâtiment et gagner entre 3 et 5 degrés. On vient donc limiter les frais liés au fonctionnement de climatisation, c'est ce qu'on appelle l'amélioration du confort d'été. Voilà, on va aller chercher un maximum l'autonomie sur l'approvisionnement en eau. On va limiter aussi, grâce à la grande capacité des jardinières, le nombre de passages d'entretien dans l'année à 2 voire 3 passages par an pour limiter également les coûts d'entretien qui suivront après l'installation.
Côté biodiversité, pour composer ses toits et façades végétalisées, l'entreprise possède également une pépinière de 30 hectares aux portes de Bordeaux. Détentrice de plusieurs brevets, Végétech a validé son procédé de fabrication auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment. Procédé qui, selon un accord encore confidentiel, sera commercialisé et distribué cette année par un géant français de la construction.
Vous pouvez podcaster demain l'écho et lire l'article d'Annabelle Grelier sur le site de France Culture. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens traverse sans doute la plus grave crise depuis sa création en 1949. Le gouvernement israélien accuse des salariés de l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du Hamas du 7 octobre, accusation qui a valu à l'Agence de l'ONU la suspension des financements de 10 pays donateurs, ainsi qu'une demande d'audit faite par l'Union européenne. Et aujourd'hui, le ministre israélien des Affaires étrangères réclame la démission du commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Pourtant, Thibault Lefebvre, Israël n'a pas intérêt au démantèlement de cette agence. Pour quelle raison ?
Eh bien parce que c'est d'abord tout le Proche-Orient qui pourrait s'embraser. L'UNRWA s'occupe de près de 6 millions de Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Et dans chacun de ces pays, les réfugiés vivent dans des camps surpeuplés comme celui de Balata à Naplouse ou d'Aïn el-Eloué au Liban. Des factions armées y défient les pouvoirs en place. Le Hamas ou le djihad islamique y sont très populaires. Et sans alternative au service de l'UNRWA, le chaos est à peu près certain. Et puis sur une partie de ces territoires, Israël est une puissance occupée qui a le devoir de respecter le droit international humanitaire. Aujourd'hui, la Cisjordanie est par exemple administrée par l'autorité palestinienne, en grande partie financée par l'Union européenne, et sa population bénéficie des services de l'UNRWA. Si l'agence de l'ONU disparaît, l'occupation va coûter beaucoup plus cher à l'État hébreu, et ce n'est pas sûr que la société civile israélienne accepte un coût qu'elle n'a jamais eu à supporter depuis 1967.
Thibault Lefebvre à Jérusalem pour France Culture. Après plusieurs semaines de calme relatif dans le centre d'Israël, le Hamas a tiré aujourd'hui des roquettes vers Tel Aviv et vers des villes voisines, attaques qui n'ont a priori pas fait de victimes. Hier, une attaque de drone a tué trois soldats américains, en Jordanie. La Maison-Blanche l'a attribué à des groupes pro-Iran. Les États-Unis promettent des représailles très conséquentes et ce qui est sûr, c'est que Joe Biden, le président américain, est sous pression pour agir. La correspondance à Washington de Sébastien Paour.
Frapper l'Iran, maintenant, frapper les forts. Voilà ce qu'écrit le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, rejoint par le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Le monde entier guette désormais les signes indiquant que le président est enfin prêt à exercer la force américaine pour contraindre l'Iran à changer de comportement. C'est le ton des faucons ici. Ce n'est pas la première attaque contre des intérêts américains dans la région depuis le 7 octobre. Il y en a eu plus de 150, mais c'est la première à faire directement des victimes dans les rangs américains. Et si jusqu'ici, Biden a tenu à éviter une escalade régionale du conflit en mesurant la riposte, celle à l'attaque d'hier doit être différente, notamment pour l'opinion publique américaine qui lui reproche ses positions trop pro-israéliennes depuis l'attaque du Hamas ou trop frileuses après chaque frappe de groupe soutenue par Téhéran contre des positions ou des intérêts américains. C'est une ligne de crête pour la Maison-Blanche. Il faut à la fois éviter cette contagion régionale et répondre à la hauteur des pertes d'hier. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a résumé ce matin. Biden répondra d'une manière très conséquente, mais nous ne cherchons pas de guerre avec l'Iran. Nous ne cherchons pas un conflit plus large au Moyen-Orient.
Sébastien Paour à Washington. La Cour constitutionnelle albanaise ouvre la voie à un accord migratoire avec l'Italie. Elle approuve le projet d'accord prévoyant l'ouverture sur le territoire albanais de deux grands centres d'accueil pour les migrants sauvés dans les eaux italiennes. L'accord entre Tirana et Rome ne nuit pas à l'intégralité territoriale de l'Albanie, selon la Cour, alors que de nombreuses critiques d'ONG et de l'opposition albanaise estimaient que cet accord violait la Constitution. Le texte doit maintenant être ratifié par le Parlement, a priori une simple formalité. La météo, les nuages dominants au nord demain, le soleil sera lui très présent dans le sud et il fera toujours très doux, de moins 2 à 5 degrés au petit matin dans le nord-est, ailleurs 6 à 9 du nord au sud. Les températures maximales atteindront 9 à 12 degrés au nord de la Loire, 12 à 16 au sud, jusqu'à 21 du Béarn aux Landes et aux côtes basques. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.